Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Début aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du procès de Khalifa Sall, maire de la capitale.
L'Union européenne appelle au respect de la liberté d'expression au Mali après la marche réprimée du week-end à Bamako.
En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé la fin de la campagne de vaccination contre le virus Ebola.
En République centrafricaine, un casque bleu tanzanien a été tué et 7 autres blessés dans une embuscade.
Au Nigeria, 182 détenus se sont évadés d'une prison du centre du pays.
Ici à Washington, le président Donald Trump dit avoir le droit absolu de s'accorder à lui-même la grâce présidentielle.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, ouverture ce mardi à Dakar du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et à payer une amende de 5 millions de francs CFA, soit plus de 10 000 dollars. De Dakar, notre envoyé spécial, Abdourahmane Dia.
C'est un regain d'espoir chez les partisans du maire de la capitale après le verdict du 30 mars qui les avait plongés dans le désarroi. Et c'est le président de la cour d'appel, le juge Demba Kondji, qui hérite de ce dossier dit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall, qui est par ailleurs élu député, mais n'a toujours pas siégé au Parlement à cause de son arrestation puis sa condamnation, est reconnu coupable dans une affaire de fausse facturation impliquant 7 autres employés de l'institution. 2 ont par la suite été relaxés. Khalifa Sall a toujours nié ses accusations et ses partisans soupçonnent une manœuvre politique visant à l'écarter de la course à la présidentielle de l'an prochain, même s'il n'a toujours pas annoncé son intention de se présenter. Les avocats de l'idylle de la capitale espèrent que la cour d'appel blanchira leur client ou tout au moins lui accorder la liberté provisoire. Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
L'Union européenne a appelé hier soir au respect de la liberté d'expression après la dispersion d'une manifestation organisée par l'opposition ce week-end et qui a fait plusieurs blessés au Mali. Un porte-parole de l'UE a souligné que tous les acteurs, y compris les forces de l'ordre, sont appelés à faire preuve de retenue. Pour le même porte-parole, le scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 doit se tenir dans des conditions de paix crédibles, transparentes et inclusives afin de renforcer la stabilité du Mali.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a qualifié hier de tapage injustifié les critiques d'ONG sur la détention de 26 militants de la société civile dans son pays. En réponse à une question lors d'un point de presse à l'Élysée, après une rencontre avec son homologue Emmanuel Macron, il a souligné que le Niger est un pays démocratique et un état de droit qui garantit toutes les libertés, y compris les libertés de manifestation. Les militants en question sont détenus depuis mars après une manifestation interdite qui avait dégénéré à Niamey et qui visait à protester contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale.
Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé la fin de la campagne de vaccination contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. L'épidémie qui s'est déclarée le 8 mai dernier a fait 25 morts. Le point avec Marie Benson.
Selon le ministère congolais de la Santé, toutes les personnes ciblées par la vaccination contre le virus Ebola ont été vaccinées. Le 21 mai dernier, l'OMS avait très vite réagi pour contrôler l'épidémie en envoyant en RDC plusieurs milliers de vaccins. Plus de 1000 personnes ont été vaccinées, la plupart à Mbandaka, l'une des villes les plus peuplées dans l'ouest de la RDC. L'épidémie, qui a été déclarée le 8 mai dernier, a causé 25 décès sur 53 cas confirmés ou suspects. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie de fièvre hémorragique Ebola depuis l'apparition de cette maladie sur le sol congolais en 1976.
En République centrafricaine, un casque bleu tanzanien a été tué et 7 autres blessés lorsque leur patrouille est tombée dans une embuscade tendue dimanche par des hommes armés dans le village de Dilapoko, dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadéi. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, les assaillants appartiendraient à la milice Siriri. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vivement condamné l'attaque qui porte à 4 le nombre de casques bleus tués en République centrafricaine cette année.
Au Maroc, 14 personnes doivent comparaître aujourd'hui devant la justice pour avoir passé à tabac dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et suscité l'indignation dans le royaume, un homme et une femme qu'ils accusaient de ne pas respecter le ramadan. Les mis en cause, âgés de 28 à 31 ans, sont poursuivis pour vol, coups et blessures et détérioration d'un bien appartenant à autrui, a dit lundi à l'AFP un porte-parole du ministère public.
AFRICOM, le commandement américain en Afrique, a annoncé hier dans un tweet avoir tué 27 militants Chebab dans un raid près de Bosaso, dans l'état semi-autonome du Puntland, en Somalie. Ce raid a été mené en coordination avec le gouvernement de Mogadiscio, selon AFRICOM, qui dit qu'aucun civil n'a été tué. Les États-Unis soulignent que les troupes américaines continueront de faire usage de toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les citoyens américains et désactiver les menaces terroristes. Un autre raid aérien américain avait coûté la vie jeudi dernier à 12 militants Chebab au sud de Mogadiscio.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a annoncé hier que la victoire de ses forces était proche à Derma, ville contrôlée depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011 par des milices islamistes et djihadistes et où la situation humanitaire est critique. Ses forces mènent depuis le mois dernier une offensive militaire pour libérer Derna, la seule zone de l'Est libyen à échapper au contrôle du maréchal Haftar.
La marine tunisienne a repris ses recherches hier au large de la région orientale de Sfax pour retrouver d'éventuels survivants ou nouveaux corps au lendemain de la mort de dizaines de migrants dans le naufrage de leur embarcation. Selon un bilan officiel tunisien provisoire, 48 cadavres ont été repêchés dimanche et 68 migrants secourus, dont 60 Tunisiens, 2 Marocains et un Libyen. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Plus de 180 passagers se trouvaient à bord de ce bateau d'une capacité maximale de 75 à 90 personnes. A dit un survivant.
Dans le centre du Nigeria, 182 détenus se sont évadés d'une prison. Des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. Le point avec Morgane Guériac.
D'après Abdourahmane Dambaza, ministre nigérian de l'Intérieur, sur les 210 prisonniers qui se sont échappés, 28 ont été repris et 182 sont toujours en fuite. L'attaque s'est produite tard dimanche à la prison de Mina, capitale de l'État du Niger. Les gardiens ont été maîtrisés par les assaillants et les prisonniers ont pu prendre le large. Des évasions arrivent souvent dans les prisons nigérianes surpeuplées. Des bandes criminelles attaquent les établissements pénitentiaires afin de sortir leurs complices. En novembre 2014, un groupe d'hommes munis d'explosifs avait attaqué la prison de Cotton Carfé dans l'état de Kogi pour libérer 132 détenus. En 2012, la même prison a été attaquée par des hommes armés qui avaient libéré une centaine de prisonniers. Le groupe Boko Haram avait revendiqué cette attaque.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a déclaré hier avoir le droit absolu de s'accorder à lui-même la grâce présidentielle et qualifié de totalement inconstitutionnel dans un tweet que l'enquête du gouvernement fédéral sur les liens présumés entre sa campagne électorale et la Russie pendant la présidentielle de 2016. Il a cependant souligné qu'il n'a rien à se reprocher. Pour certains experts du droit constitutionnel, les propos du président américain sont sans précédent et constituent un test pour les limites imposées par la Constitution. L'un d'entre eux a même ajouté que la plupart des congrès engageraient une procédure de destitution contre M. Trump.
Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne examinent aujourd'hui à Luxembourg une voie de compromis pour débloquer la réforme du système d'asile européen. Le patron de l'extrême droite italienne refuse que son pays soit le camp de réfugiés de l'Europe, Eric Maniarakiza.
La présidence bulgare de l'Union va présenter le fruit de plusieurs mois de travaux pour tenter de sortir de l'impasse. La proposition vise à alléger le fardeau des pays en première ligne et endiguer parallèlement les mouvements secondaires depuis les pays d'entrée vers d'autres. Les États membres ont voulu se sommer pour trouver un consensus sur la réforme du règlement Dublin qui fait actuellement peser la charge principale de l'asile sur les pays de première entrée. L'Italie, la Grèce et le Parlement européen exigent que l'accueil soit partagé de manière permanente et pas seulement en période de crise. La Hongrie et la Pologne, soutenues par l'Autriche, excluent au contraire toute relocalisation obligatoire, contrairement à l'Allemagne et la France. La chancelière allemande Angela Merkel a admis dimanche qu'il faudra peut-être quelques semaines de plus pour un consensus après le sommet. En 2015, les demandes d'asile dans l'Union européenne avaient atteint 1,26 million. Les arrivées ont nettement baissé sur les côtes européennes, mais les Européens n'ont pas réussi à bâtir un dispositif qui éviterait que des pays soient débordés par un nouvel afflux massif.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
20 millions de dollars, c'est le montant du décaissement qui a été approuvé par le Fonds monétaire international au bénéfice du Niger. Ce financement intervient au titre de la facilité élargie de crédit. Cette approbation porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 60 millions de dollars. Selon le FMI, qui vient d'achever la deuxième revue du programme économique et financier du pays. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a lancé à Lukishar, dans le nord-ouest du pays, un programme pilote destiné à l'exportation du pétrole brut. Ce programme biannuel prévoit l'acheminement de quelque 2000 barils par jour par camion vers le port de Mombasa, depuis les puits de pétrole situés dans le nord-ouest du Kenya. Les réserves de pétrole au Kenya sont estimées à 560 millions de barils. La filiale marocaine du géant français de l'alimentaire Danone, qui fait face depuis 6 semaines à une campagne inédite de boycott au Maroc, a annoncé lundi s'attendre à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires. Centrale Danone, filiale du groupe au Maroc, prévoit une perte nette d'environ 13 millions d'euros au premier semestre 2018, contre un bénéfice net de 5 millions d'euros sur la même période l'année dernière.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Yaya Touré accuse Guardiola de racisme.
Et oui, le milieu de terrain qui quitte Manchester City après 8 saisons au club pense que l'entraîneur espagnol Pep Guardiola a des problèmes, je cite, avec les joueurs de couleur. C'est ce qu'il annonce dans un entretien à France Football. Le joueur ivoirien de 35 ans affirme que son ex-entraîneur a souvent des problèmes avec des Africains. Yaya Touré n'a joué que 17 matchs, toutes compétitions confondues. Il avoue s'être demandé si son faible temps de jeu n'était pas lié à sa couleur de peau. Affaire à suivre.
À 10 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les équipes africaines dévoilent leur liste des 23 joueurs retenus pour le tournoi et l'espoir renaît pour Salah.
L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, blessé lors de la finale de la Ligue des Champions, figure bien dans cette liste des 23 Égyptiens sélectionnés pour le Mondial 2018. Salah, dont la participation à la Coupe du Monde était plus qu'incertaine en raison de sa blessure à l'épaule, et bien il sera bien là. On ignore pour le moment, Idrissa, s'il jouera le premier match de cette Coupe du Monde avec son équipe, Mohamed Salah, qui se soigne actuellement en Espagne. Aux côtés de Mohamed Salah, notez la présence du légendaire gardien Essam Aladari. Tenez-vous bien, il a 45 ans, ce sera le plus vieux joueur à participer à une Coupe du Monde. On rappelle, Idrissa, les Pharaons démarrent leur mondial dans le groupe A le 15 juin contre l'Uruguay avant d'affronter la Russie, le pays organisateur, et enfin l'Arabie Saoudite.
On connaît aussi la liste finale pour le Maroc.
Oui, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a logiquement appelé Mehdi Benatia et Younes Belhanda dans cette liste des 23 joueurs des Lions de l'Atlas. Pour ce mondial, il a également intégré l'attaquant de Malaga, Youssef En-Nesyri, réserviste dans la première liste. L'attaquant de 21 ans intègre le groupe aux dépens du défenseur Badr Bedoun, qui évolue au Raja de Casablanca. On rappelle, Idrissa, que le Maroc évoluera dans le groupe B de ce mondial avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Hier, en match amical face à la Slovaquie, les Lions de l'Atlas ont battu 2-1 leurs adversaires grâce à Ayoub El Kaabi et Belhanda.
Tennis Roland-Garros, ça passe pour Nadal.
10 fois vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale en écartant l'Allemand Maximilian Marterer en 3-7. Le score 6-3, 6-2, 7-6 en quart de finale. Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzmann, tombeur en 5-7 du Sud-Africain Kevin Anderson.
Serena Williams, forfait pour la suite du tournoi.
Eh oui, l'ex numéro 1 mondial Serena Williams a déclaré forfait avant le choc prévu face à Maria Sharapova en 8e de finale de ce Roland-Garros. Et ce, en raison d'un problème pectoral, c'est ce qu'elle a annoncé hier en conférence de presse. La cadette des sœurs Williams disputait son premier tournoi du Grand Chelem depuis son titre à l'Open d'Australie en janvier 2017. On s'en souvient, Idrissa, que Serena Williams avait mis sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à son premier enfant. C'était en septembre dernier. Elle était revenue à la compétition en mars dernier à Indian Wells.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara n'exclut pas un troisième mandat. Monsieur Ouattara, dont le deuxième s'achève en 2020, estime que les mandats effectués avant le changement de constitution de 2016 ne comptent pas. L'opposition ivoirienne n'a pas tardé à réagir en affirmant que cette idée du chef de l'État est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable, y voyant même une provocation. Pour une analyse, Morgane Guériec a joint le politologue André Silver Conan.
C'est un discours politique du président qui ne cadre pas avec la réalité juridique. Effectivement, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2016, alors que lui, il a été élu en 2015. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé entre les constitutions de 2000 et 2016. N'ayant pas une norme nouvelle, cette norme donc de la limitation des mandats touche le président actuel.
Mais lui, il dit que ces élections de 2010 et 2015 ne compte pas.
Si ces élections ne comptent pas, sur quelle base ils gouvernent actuellement? Il y a dans le vote d'une constitution ce qu'on appelle la lettre et l'esprit. Dans l'esprit, avant l'adoption de la nouvelle constitution en 2015, le président Alassane Ouattara s'était clairement exprimé dans le sens qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat et que la disposition précise sur la limitation des mandats ne serait pas concernée par la nouvelle constitution. Les électeurs sont partis dans les urnes dans l'esprit que la limitation était fixe pour lui, aussi bien pour tous ceux qui avaient déjà un mandat en Côte d'Ivoire. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé du tout. Et de ce fait, il n'y a aucune rétroactivité qui s'impose là.
Des observateurs estiment qu'il utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles au sein de son camp concernant sa succession. Est-ce que c'est votre avis?
Je pense qu'il utilise cela, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et ce ne sont certainement pas ces déclarations de M. Ouattara qui empêchent M. Soro d'être en pré-campagne. Et donc moi je dis, ce sont des intentions qu'on lui prête. Mais à la lettre, c'est qu'il affirme aujourd'hui qu'il peut être candidat.
Alors Alassane Ouattara affirme que la stabilité et la paix passent avant tout. Quel pourrait être l'impact d'un troisième mandat sur la stabilité du pays?
Ça va être la porte ouverte à une crise sociale, politique et économique grave. Peut-être pas dans l'envergure de celle que nous avons connue en 2010, mais ce sera la plus grave crise après la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010. Pour la stabilité, pour la paix, pour la continuité de l'État, la meilleure chose pour lui, c'est de ne pas se présenter contre vents et marées, contre l'avis de la Constitution et contre l'avis d'une certaine partie de la population.
C'était l'analyste politique ivoirien André Silver Conan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
À Madagascar, le président Rajaonar Mampiane a nommé Christian Tsay comme nouveau premier ministre. La Cour constitutionnelle avait donné une semaine au président malgache pour nommer un nouveau gouvernement de consensus. Le pays est plongé dans une crise depuis plusieurs semaines. Qui est le nouveau chef du gouvernement malgache? Idriss Fall a joint à Antananarive notre confrère Randy Doni.
Le nouveau premier ministre s'appelle Christian Tsay. Il vient du nord de l'île, plus précisément de la ville d'Ambiloubé. Il était déjà ministre du tourisme et puis il est aussi apparenté au temps du président Ravalomanana. Une ministre qui s'appelle Manuruanta Cécile, c'est le frère de Manuruanta Cécile, qui était déjà ministre de l'enseignement supérieur et ministre de la défense au temps de Ravalomanana. Disons qu'il n'est pas très connu du grand public. C'est un technicien assez apprécié. Il était le représentant du Bureau international du travail pour l'océan Indien. En 2016, il a obtenu le prix du leadership. Avant cela aussi, il était directeur général de Secren, le chantier de construction navale à Diego Suarez. Il était aussi directeur général de la Solima, c'est-à-dire l'ancien organisme qui s'occupait du pétrole à Madagascar. Bref, c'est quelqu'un qui a déjà une assez longue carrière. Il n'est pas très, très connu sur le milieu politique.
Justement, comme il n'est pas connu sur le milieu politique, on lui demande de former un gouvernement d'union. Est-ce que sa tâche sera facile?
Je veux dire, il n'est pas très connu du milieu public. scientifique, mais il est connu du milieu politique en tant que technicien. Ceci dit, cette tâche ne sera pas facile, bien sûr, parce que en ce moment, c'est un peu le bazar, hein, donc tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Ceux qui sont en grève dans l'opposition au 13 mai, qui dit, nous, on est la majorité, donc on veut avoir la majorité aussi, donc au sein du gouvernement. Et puis, ceux qui sont avec le président actuel, Eric Rajaratnam, qui veulent aussi garder leur... Mais avant tout ça, il faut dire que quand la nomination a été faite, le président Eric Rajaratnam a dit que c'est le fruit d'un consensus. Alors qu'en ce moment, on se demande encore un peu, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que apparemment, la base, hein, les militants de base du 13 mai... Mais c'est la place où les grévistes se réunissent quotidiennement. Apparemment, ils ne sont pas très au courant du nom. Donc, est-ce que c'est un consensus décidé en haut lieu? Il y en a qui parlent de fortune, mais je ne crois pas trop. Hein.
Donc, c'est dire qu'en fait, Madagascar n'est pas encore totalement sorti de la crise depuis plusieurs mois alors.
Comme dit le proverbe malgache, il ne faut jamais siffler avant de sortir de la forêt. Alors, on est encore dans la forêt, on commence à percevoir la lumière hein, du jour, la clairière, mais il ne faut pas encore siffler, il faut encore attendre. En ce moment même, les dirigeants, du ma part, c'est-à-dire ceux qui sont avec le président de la transition, André Rajuel, ils sont en conclave maintenant, on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Donc, on attend un peu, disons, on va attendre demain, parce que tous les jours, il y a la grève, il y a le meeting sur la place du 13 mai, donc c'est là, certainement, qu'on va savoir leur réaction, ce qu'ils en pensent.
Randy Donny, journaliste à Antananarivo, la capitale de Madagascar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé samedi dernier une marche meeting à Ouagadougou. Il s'oppose à la volonté du gouvernement d'introduire des moustiques génétiquement modifiés dans le pays pour lutter contre le paludisme. Yacouba Ouedraogo a joint Ali Tapsoba, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie.
Vous savez très bien qu'en modifiant le génome du moustique, on a la possibilité de changer son caractère. Et en changeant son caractère, il se peut que désormais le moustique héberge d'autres maladies qui ne sont plus le paludisme. La deuxième raison, c'est une raison écologique. Le simple fait d'éliminer cette espèce va engendrer un vide écologique. Et ce vide écologique risque d'être occupé par d'autres espèces et ça peut créer un sérieux problème dans les équilibres alimentaires. La troisième raison, c'est la question même de la dépendance. Cette technologie qui n'est pas maîtrisée, dont le transfert de compétences n'est pas total auprès de nos braves chercheurs, va de soi que les firmes qui la maîtrisent vont désormais tenir à bout le Burkina et les pays africains par rapport à la lutte contre le paludisme. Nous ne pouvons pas accepter. La quatrième raison, c'est une récente question d'éthique. Pourquoi prendre 37 milliards pour faire un sauveur l'inconnu quand il y a des méthodes endogènes à côté? Mieux vaut mettre l'accent sur une politique d'assainissement d'hygiène à la portée de nos populations.
Au même moment, on se dit quand même que les recherches ont été menées par des chercheurs aguerris et qui maîtrisent leur sujet, est-ce qu'ils vont accepter quand même jeter des moustiques OGM dans la nature comme ça s'ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants de ce qu'ils sont en train de faire?
Sur les moustiques, dans le vaccin à stade avancé, ils auraient dû préférer continuer sur ce chemin. Mais lorsqu'on les impose des protocoles parce qu'il y a de financement de l'extérieur, généralement ils n'ont que le choix que de tenter. Du reste, nous avons été partie prenante de ce projet, nous savons de quoi nous parlons. Les chercheurs eux-mêmes nous ont confié qu'ils sont en train de faire un apprentissage dans le fond. Génétique. Et là, nous avons dit, est-ce qu'il faut apprendre à tirer un fusil avec des balles réelles sur des êtres vivants? Cela est criminel, c'est aventuriste.
Vous avez soulevé pas mal d'inquiétudes. Est-ce que vous avez, de votre côté, mené des études ou des recherches qui prouvent, bien sûr, tout ce que vous craignez par rapport à l'introduction de ces moustiques OGM là, dans la nature?
Nous nous référons à des centres de recherche qui ont fait des publications, IBN, Genworth, qui ont fait une publication dans le mois de février pour démontrer que la technologie du forçage génétique n'est même pas maîtrisé et que les chercheurs burkinabés, maliens ou ougandais ne peuvent pas s'aventurer. Ils ont alors écrit partie de l'expérience que le Brésil a connue par rapport au lâcher de moustiques génétiquement modifiés, dont les résultats n'ont pas été probants, mais qui a créé plus de formes de résistance à ce niveau parce qu'ils ont utilisé les moustiques pour combattre des maladies comme la dengue.
Vous avez manifesté samedi. Est-ce que vous pensez que votre message a été reçu par le gouvernement?
Quand vous regardez la diversité des organisations paysannes qui étaient présentes, quand vous regardez la diversité des mouvements de consommateurs, quand vous regardez la diversité des jeunes, des femmes qui sont sorties pour dire non aux niais et aux moustiques génétiquement modifiés, cela nous fait dire qu'un gouvernement sérieux ne peut pas être sourd face à un peuple qui crie pour sa souveraineté alimentaire et sanitaire.
Ali Tapsoba, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les musulmans du Niger observent depuis une vingtaine de jours le jeûne du mois de Ramadan. Dans ce pays laïque, à plus de 90% musulmans, ne pas jeûner sans raison valable est parfois mal perçu. Notre correspondant Abdelrazak Idrissa nous plonge dans l'univers des non-jeûneurs à travers ce reportage.
Ils sont rares ceux qui osent parler au micro du sujet, ne pas jeûner dans un mois béni de Ramadan dans une société fortement islamisée. Ces quelques-uns rencontrés dans un quartier populaire de Niamey ne s'en cachent toutefois pas outre mesure.
Je ne jeûne pas vraiment. On est ensemble tous, on est ici ensemble. Les amis, des grands frères, des petits frères comme ça, on travaille ensemble. Mais je sais que je ne jeûne pas. Voilà, ça ne fait rien.
Je suis un musulman de père et mère. Je ne fais pas le jeûne. Je n'ai pas caché à mon bon Dieu. Pourquoi je vais avoir honte de quelqu'un parce que je ne fais pas le jeûne? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent.
Si, pour ces deux jeunes adolescents, il n'y a pas de raison apparente pour justifier le fait pour eux de ne pas observer le mois de jeûne. D'autres, par contre, ont de solides justificatifs.
Moi, je n'ai pas une femme. Mais en plus, je suis un buveur. Tu vois, je suis à chaque fois avec le buveur, de matin jusqu'à la nuit. Et c'est moi le transporteur international en cours de l'alcool. Voilà, c'est pour cela que vraiment, je ne prends pas le carême. Ça fait 38 ans de cela, moi, je ne fais pas carême.
Cette jeune dame justifie sa décision de ne pas observer le jeûne du mois béni de Ramadan par sa pauvreté. Elle ne se préoccupe pas de ce que vont penser les autres. Pourtant, aucune de ces raisons ne sont celles prévues par la religion pour qu'un musulman soit dispensé du jeûne du mois béni de Ramadan, comme l'explique le prédicateur Ismaël Mohamed.
Ce sont d'abord les gens qui sont frappés d'un âge très très avancé, qui ne peuvent pas supporter la faim. Il y a également des gens qui sont malades. Cliniquement, ils sont malades, c'est à peine même s'ils peuvent manger, même s'ils étaient hors du mois de Ramadan. Maintenant, il y a cette dispense qui est accordée également aux voyageurs. Une femme qui est en état de menstrue, elle ne peut pas jeûner. Il y a également ces femmes qui sont en couche très fraîche.
Avec des raisons justifiées ou pas, les non-jeûneurs sont plutôt bien acceptés dans la société nigérienne. Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'allaitement maternel par les femmes vivant avec le VIH-SIDA.
L'Organisation mondiale de la santé recommande d'allaiter les nouveau-nés exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie. Pour les femmes vivant avec le VIH, certaines précautions s'imposent cependant.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste en RDC. Il nous dira ce qu'il faut faire pour réduire les risques de transmission du virus entre la mère et son enfant.
Nous écouterons le témoignage d'une mère séropositive qui allaite son enfant au lait maternel. Nous écouterons aussi un représentant du gouvernement congolais en charge de la santé des enfants.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.